Alors bonsoir à tout le monde, merci d'être venu. C'est un peu bizarre d'avoir les gens comme ça au fond des yeux de caméléon. Alors, oui, alors regroupez-vous, c'est vrai que. Ah oui, n'hésitez pas comme ça, voilà. Alors, quand au mois de juillet, il me semble bien que c'était au mois de juillet, que Luc André m'a envoyé un mail, j'étais encore en Allemagne à ce moment-là, pour me dire, demander de faire une conférence sur la maîtrise. Je me suis dit, la maîtrise, de toute façon, les gens qui sont à la maîtrise sauront bien de quoi il s'agit, et les autres, est-ce que vraiment ça les intéresse? Parce qu'une maîtrise, en fait, c'est des enfants qui chantent, donc on a envie d'entendre les enfants chanter, et pas le chef de chœur raconter ses histoires sur, sur comment ça se passe, etc. Donc du coup, j'avais proposé un autre sujet en me disant, de toute façon, ça a toujours trait à la maîtrise d'une certaine façon, mais on va dire ça élève un peu le regard. Tout au moins, c'est ce que j'ai envie de faire ce soir. Du coup, art et enfance, comment la musique nous construit. Vous savez, lorsqu'on choisit un titre, on se dit, bah tiens, ça sonne pas mal, je pense que je pourrais faire un truc là-dessus. Finalement, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu choisir? En fait, lorsque je lis ça maintenant, j'ai l'impression que ça inaugure toute une série de conférences sur art et enfance. Alors, l'enfance et la musique, l'enfance et la sculpture et la peinture, etc. Et donc, on commence avec la musique. Mais en fait, c'est la seule conférence que vous allez entendre, a priori, sur ce sujet. Et vous allez voir qu'en fait, c'est même pas nécessaire d'en entendre une autre, puisque vous allez comprendre la musique, évidemment. C'est le plus grand de tous les arts et qui recèle en lui-même tout ce que les autres n'ont qu'en partie. Donc en fait, une conférence pour toutes, ça ira très bien. Platon dit dans la République, c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ, il est difficile, alors j'ai mis des numéros, hein. De temps en temps je ne vais peut-être pas lire toute la citation parce que sinon on mettrait juste une demi-heure à les lire. Mais celle-ci, je vais la lire parce qu'elle est vraiment magnifique. Numéro 1, donc, il est difficile de trouver meilleure éducation que celle qui a été trouvée au cours des temps, je veux dire la gymnastique pour le corps et la musique pour l'âme. C'est pour cela que la musique est la partie la plus importante de l'éducation, puisque les rythmes et les sons s'enfoncent au plus profond dans l'âme et la font vibrer le plus violemment. Alors c'est quand même assez incroyable qu'un grand penseur, comme Platon, qui a réfléchi sur les choses, il connaissait quand même bien aussi la tradition, qui a beaucoup réfléchi sur les pédagogies, qui a écrit tout un ouvrage, La République, sur ce sujet, résume finalement tout à se dire, ben oui, l'homme est fait d'un corps et d'un esprit. Vous connaissez le dicton aussi antique, un esprit sain dans un corps sain. Donc il y a l'esprit et le corps, et pour éduquer ces deux-là, il faut juste faire des exercices pour le corps et pour l'esprit. Faut pas des connaissances à l'infini, faire des maths, faire l'histoire, réciter des poésies. C'est juste faire la musique. On a tout. L'éducation, c'est ça. Faire la gymnastique et faire la musique. C'est incroyable, non? Vous trouvez pas? Alors moi, ça m'a beaucoup réjoui quand j'ai trouvé ça. Mais avant de commencer, d'aller plus en avant sur la question, mais qu'est-ce que c'est que cette musique et qu'est-ce qu'elle fait en fait en nous pour qu'elle soit tellement importante et qu'elle puisse résumer en elle tous les autres arts, du moins en ce qui concerne l'éducation. Je veux faire deux remarques préliminaires. Là aussi par rapport à ce titre que j'ai choisi et que je dois assumer. D'une part sur enfance et d'autre part sur construire. Alors, on aime beaucoup parler de l'enfance, surtout les adultes, parce qu'évidemment, c'est hyper attendrissant, les enfants, etc. Et puis surtout, c'est très important. Je pense que chacun parmi vous est au moins parent, ou grand-parent, ou prof, ou parrain, ou marraine. Enfin, on a tous, je pense, enfin, il y a très peu d'adultes qui n'ont aucun rapport éducatif, de proche ou de loin, avec des enfants. Donc on est tous concernés par cette idée, par cette histoire de mais comment, qu'est-ce qu'on fait pour faire de ces enfants des adultes hyper géniaux, bien plus géniaux que nous évidemment, bien plus épanouis, bien plus heureux, bien plus généreux, bien plus aimants. Comment on va s'y prendre? Et il y a quand même un petit problème dans cette histoire, c'est qu'en fait, l'enfance, c'est quelque chose qui, par définition, nous échappe. Parce que nous ne sommes plus enfants. Et cette phase hyper fragile et turbulente et tourmentée de l'adolescence, où on passe du stade de l'enfance au stade adulte, on pourrait dire aussi, où on est chassé du paradis de l'enfance pour se trouver dans la vallée des larmes du monde des adultes. Cette période est vraiment, il me semble, une scission aussi d'ordre de l'intellection. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre un enfant, puisque je ne fonctionne plus comme un enfant. Et toute petite parenthèse, quand on regarde comment ça se passe aujourd'hui, l'éducation globalement, hein, où on impose des vues d'adultes sur des enfants qui ne sont pas des adultes, et on s'énerve parce que les enfants ne deviennent pas ce qu'on, ils font pas ce qu'on veut qu'ils fassent et apprennent pas ce qu'ils doivent apprendre, etc. Ils sont pas motivés autant qu'on voudrait. Et ben peut-être c'est dû aussi au fait tout simplement qu'on impose une vue d'adulte sur une vie d'enfant, et c'est pour ça que ça marche pas trop bien. Très souvent, l'éducation, on le sait. À moins peut-être de faire du Montessori, où Maria a trouvé, Maria Montessori, donc la très très grande intellectuelle et pédagogue italienne, a trouvé qu'en fait, le mieux c'est de le laisser faire. C'est-à-dire qu'on crée un environnement varié, riche, intéressant, et puis après, on les laisse chercher leur truc. Alors si un enfant veut déboutonner une chemise pendant 3 mois, c'est très bien qu'il le fasse. Si un enfant n'a pas envie de lire jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est pas un souci. C'est sûr, il faut être assez détendu et très confiant, mais ça porte des fruits, il me semble absolument incroyable. Mais c'est vrai que c'est pas du tout comme ça que nous, on a envie de fonctionner, les adultes. Lorsqu'on apprend une langue, on fait ça de façon très rigoureuse et très stricte. Et là, du coup, se dire non, mais chacun fait selon son désir, ça nous déroute. Mais voilà, c'est pas sur ça que je voulais parler en fait ce soir, simplement pour dire que lorsqu'on parle d'enfance, on parle, je pense, à la limite, la seule chose qu'on peut vraiment comprendre d'un point de vue philosophique, d'un point de vue intérieur, d'un point de vue de l'intellection philosophique, c'est l'enfance à laquelle nous participons encore tous. Notre enfance qui restera toujours avec nous dans le sens où nous avons peur, nous avons des craintes, nous avons des tas d'idées erronées finalement sur la vie, sur le monde. Mais à part ça, on peut très peu dire finalement sur l'enfance de l'intérieur. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut faire des études sociologiques et psychologiques, ça c'est évident. Mais à ce moment-là, on prend les enfants de l'extérieur comme des objets en disant tiens, ils font ceci, cela statistiquement, ou à tel âge, ils font telle chose, etc. C'est pas, voilà, c'est pas exactement ça que j'avais envie de faire ce soir. La deuxième chose, c'est sur la construction. Ah oui, alors bon, il y a une petite citation. Saint Paul aux Corinthiens. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, et maintenant je suis un homme. Voilà, bon, là, petit clin d'œil, je ne vais pas aller plus loin dans ça. Par contre, en ce qui concerne la construction, regardez bien la citation numéro 3, vous connaissez bien. Parce que réellement, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur la pédagogie, je pense qu'il y a certains profs parmi vous, donc vous avez certainement beaucoup réfléchi sur la pédagogie, et sur la question de savoir, on a même un chef d'établissement parmi nous, sur la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on veut en fait construire? C'est quand même assez violent hein, de dire finalement construire, qu'est-ce qu'on veut construire? Donc, moi j'aimerais dire, pour aller assez bref et directement au but, que il me semble la plus belle chose que nous puissions construire, et là le terme est extrêmement maladroitement choisi, c'est que les enfants puissent aimer. Et pas simplement aimer d'une façon passionnelle, ça c'est bien aussi, mais vraiment être saisi par l'amour de Dieu ou par l'amour que Dieu a pour eux et qu'ils puissent, à partir de cette expérience-là, aimer les autres. Alors c'est un vaste chemin et nous on n'en est pas capable, donc comment on veut faire ça aux enfants ou permettre ça aux enfants? Mais en tout cas, il me semble qu'on ne peut pas vraiment voir le but de l'éducation au rabais ou en dessous de ce but-là. Voilà, ça c'était l'introduction. Avec la très belle citation de la première lettre de Jean, Dieu, Deus, ah, oh, faute frappe, Deus caritas est. Et Benoît XVI l'a reprise en 2005, vous savez bien, dans son encyclique. Alors, cette musique. En fait, vous savez, il y a une chose très très intéressante. Certains le savent peut-être, d'autres le découvrent ce soir. Souvent, les gens le découvrent, ils ne savent pas du tout. Qu'en fait, c'était au 6e siècle avant Jésus-Christ, un homme nommé Pythagore, le premier grand maître de pensée selon Hegel, de toute façon un des premiers philosophes grecs, s'est baladé dans sa ville, c'était sur une île à Samos, et il paraît, selon la légende, il est passé à côté d'une forge, il a entendu des sons harmonieux sortir du travail des forgerons. Et donc il s'est approché de cette forge, il s'est dit, mais comment ça se fait que ça sonne si joliment alors que c'est que des métaux qui sont frappés les uns contre les autres? Merci. Et il a compris qu'en fait, les sons que les métaux faisaient étaient en relation directe et étroite avec leur poids. Et donc, elle dit, mais ça, c'est quand même un son incroyable. Donc, un truc plus gros, ça fait un son plus grave, et un son plus petit, un son plus aigu. Et lorsque ces grandeurs et ces poids sont en relation, et ben les sons aussi sont en relation. Alors, il a cherché par ailleurs, et il a trouvé qu'en tendant une corde, ce qu'on appelle le monocorde, une seule corde sur une boîte de résonance, on a un son, c'est évident, boum. Mais lorsque je mets le doigt au milieu, et par ce fait même, je partage la corde, par exemple, si je mets exactement au milieu mathématique, arithmétique de la corde, et je frappe un côté des cordes, eh ben, j'ai un autre son. À votre avis, c'est quoi comme son que j'ai? Vous savez? Presque! Devinez. L'octave. Et l'octave, on va la faire d'ailleurs maintenant, puisque Jean-Pierre voulait qu'on chante. Alors bon, c'était pas prévu, mais puisque tu insistes, hein, je vais laisser faire chanter une octave. Et en fait, c'est très simple. Pourquoi? Parce que je vais vous chanter une note, et donc les hommes vont forcément chanter. Du moment où ils chantent juste, attention, hein, ceux qui chantent pas, ne chantez pas. Ils vont forcément chanter la même note. Et les dames qui vont chanter la même note aussi vont naturellement la chanter à l'octave. D'accord? Donc je fais une note. Les hommes, s'il vous plaît, vous me suivez. Et les femmes, les dames, quand vous êtes prêtes, vous nous rejoignez sur cette même note. D'accord? Ouais, il y a déjà des tas de très très bien, l'ensemble des basses professionnelles là, qui nous font des harmoniques de ouf. Donc c'est très bien. Donc on a bien entendu, merci beaucoup, on a bien entendu l'octave. Vous savez, l'octave, on dit oui, c'est l'octave, voilà, c'est la même note, hein, c'est pas très intéressant. Mais en fait, c'est une chose incroyable. C'est une chose incroyable. Ça n'existe nulle part dans notre monde sensoriel que nous puissions sentir avec un autre sens, avec la vue, avec le goût, avec l'odorat, le double de la fréquence. Je ne peux pas dire ça c'est deux fois plus sucré que ça. Je ne peux pas dire que ça c'est deux fois plus de rouge que l'autre. Je ne peux pas dire. Voilà. Donc les autres sens, ils sont tous limités en dessous de l'octave. Et notamment la vue, qui est en fait le maître de tous les sens, hein, avec laquelle on fait tout, ou quasiment. À part écouter les conférences, on a besoin d'oreilles, mais sinon la vue est vraiment c'est le sens vraiment prince de notre monde. Mais je ne peux pas, je peux voir des rapports à peu près, hein, vaguement, si j'ai une bonne vue, je peux voir un peu, oui, ça doit être la moitié, etc. Quand je vois des formes un peu géométriques. D'ailleurs, il n'y avait pas des images là, il n'y avait que comme image. Ah, voilà. Donc. Je peux voir des moitiés, mais je ne peux pas les entendre avec la même les percevoir à la même acuité avec laquelle je perçois l'octave. Parce que là, on a eu quelques chanteurs, donc l'octave était juste. Mais attention, s'il avait été un tout petit peu fausse, tout le monde, même ceux qui sont vraiment pas musiciens du tout, auraient tout de suite entendu. Ils ont dit, ah, c'est faux, c'est horrible. Avec les autres intervalles, c'est pas forcément clair, mais avec l'octave, c'est rédhibitoire. Là, on voit bien, voilà, bon, ça c'est une longueur, ça c'est le monocorde, ça c'est la moitié, on voit à peu près. Mais si on met le doigt sur cette moitié et on pince la corde, on va entendre si vraiment c'est arithmétiquement la moitié ou pas. Donc c'est grâce à l'oreille, qui est beaucoup plus fin que la vue, qu'on va pouvoir trouver le milieu exact ou il faut poser le doigt pour faire la moitié. Alors, donc ça, c'est une illustration d'un Robertus Fluctibus du XVIIe siècle, un Anglais qui a beaucoup réfléchi sur ces histoires de l'harmonie des sphères et tout ça que Pythagore avait découvert 2000 ans avant lui. Et donc il a fait ce monocorde, c'est tout le cosmos. Alors vous voyez là-haut, il y a sans doute Dieu qui accorde l'instrument. Et c'est très intéressant parce que Dieu accorde l'instrument, donc il peut choisir la hauteur de la note. Mais ce qui se passe à l'intérieur, il ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire que l'octave soit pas l'octave, que la quinte soit pas la quinte. Ça lui échappe complètement, du moins dans cette illustration. Là, on a la Terre. Là, à l'octave, on a le Soleil. Et deux octaves plus hautes, on a la plus haute sphère de l'univers. Et là, quelque part au milieu, on a les étoiles. Et à l'intérieur, bon, je ne vais pas être dans le détail, mais il y a les quintes, les quartes, et tous les intervalles avec les noms grecs. Et donc c'était un peu leur dada, et pendant très longtemps, jusque dans la Renaissance, de se dire, mais c'est incroyable, parce que non seulement je peux mesurer le monde très exactement et dire, ben, ça c'est la moitié de ça, mais je peux aussi l'entendre. Et lorsque je l'entends, les sens sont, mon ouïe est beaucoup plus exacte que la vue et même que la mesure. Donc l'ouïe, c'est un instrument d'une exactitude arithmétique incroyable. Et ça fascinait beaucoup de gens, notamment Platon et notamment Augustin, et notamment Kepler, qui a trouvé ces trois lois des mouvements des planètes grâce à des recherches d'harmonie. Et en fait... Ah, tu es allé trop loin! Voilà. Donc ça, c'est le Christ qui est géomètre du monde. C'est une très belle illustration, je trouve, où on voit que voilà, il règne sur le monde avec son instrument de géomètre. Et lorsque, dans le prologue de Saint Jean, lié au commencement était le Verbe, in principio erat verbum, vous savez qu'en fait, il n'a pas écrit en latin, Saint Jean, il a écrit en grec. Et donc c'est logos. Qu'il disait. Le logos, c'est pas simplement une parole, c'est aussi la raison, c'est l'intelligence, c'est une structure. On peut pas trouver de traduction pour ça. Et dans le Faust de Goethe, il y a un petit passage. Ça se dit pas trop en France, je sais, mais en Allemagne, tout le monde doit lire le Faust de Goethe. Donc je suis passé par là. Et il y a un petit moment où Goethe veut traduire justement le début du prologue. Et puis il dit, ah, mais Logos, comment je vais? Non, c'est pas la parole, là, c'est pas la parole, c'est trop peu la parole. Est-ce que c'est la force, les kraft? Est-ce que ça serait peut-être, non, la kraft, est-ce que ça serait peut-être le sens? C'est-à-dire qu'une structure dirigée vers un but? Finalement, il se résout à se dire, bah non, c'est l'action. Mais finalement, c'est pas l'action non plus, et c'est toutes ces choses en même temps. Lorsqu'on dit qu'au début était le Verbe et que le Verbe a fait naître le monde, on peut se dire, bon, est-ce que c'était une parole qui était juste dite ou est-ce que c'est une parole qui était chantée? Et moi, je crois que le Verbe était chanté. Et c'est qu'à cette condition seule qu'il peut être le Christ. Mais je m'égare et surtout le temps avance. On reviendra sur ça tout à l'heure, encore une fois. Augustin a été très, 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 comment dire, saisi par la musique. C'est même à cause, un peu grâce à la musique, qui s'est converti. Et je ne sais pas si vous avez lu les Confessions ou en extrait un peu les Confessions de Saint-Augustin. Notamment là, il parle de la musique. C'est vraiment bouleversant parce que, visiblement, il a écouté Saint Ambroise, qui était évêque de Milan à ce moment-là, chantait ses hymnes qui venaient juste de composer dans la cathédrale de Milan. Et il est fondu en larmes. J'ai dit, ah, qu'est-ce que c'était bon! J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, et j'étais tellement heureux. Et puis j'ai senti qu'en moi, un véritable affectus pietatis, un véritable affect de piété surgir en moi. Et dans sa suite, enfin, dans sa suite, d'une certaine façon, le moine Augustinien, Augustin, Augustinien, Martin Luther, parce qu'il était moine augustin avant de déclencher la réforme, a été très très sensible aussi à la musique. Et puis il y a une belle citation, numéro 5, rien au monde n'est plus apte à rendre heureux ceux qui sont tristes, et tristes ceux qui sont joyeux, vigoureux les accablés, à assouvir et à modérer la chaleur excessive de l'amour, à réduire l'envie et la haine, capable de produire tous les mouvements du cœur humain, ce cœur qui régit les hommes et les incite et les pousse tant à la vertu qu'au vice. Rien n'est plus puissant, dis-je, que la musique. Et d'une certaine façon, lorsqu'on voit ces deux, ces dépend de la tradition, d'une part le pan des pythagoriciens qui disent que, ah oui, là, c'est vrai, là, on a saint Augustin merveilleux avec son cœur enflammé. Donc, les pythagoriciens qui disent, le monde peut être entendu, il est profondément, il est foncièrement structure sonore. Peut-être pas un son qu'on entend vraiment, mais c'est parce que nous, soit nous sommes tellement habitués à entendre le son des sphères qui nous entourent que nous ne l'entendons plus, ou soit nos oreilles sont trop infirmes pour l'entendre vraiment. Mais lorsqu'on réfléchit un peu sur la nature même du son et sur la nature même des choses qui régissent tous, s'ils sont toutes régies selon des lois qui finalement se réduisent à des maths, à des rapports de proportions, à des rapports de chiffres, eh ben, on arrive à la conclusion que le monde doit être profondément sonore et que la beauté esthétique du monde n'est qu'une face de la médaille et que l'autre face, c'est la qualité harmonique du monde que nous n'entendons pas en regardant même quelque chose de très beau, même une nature magnifique, même une personne fabuleusement belle, mais que nous pouvons vraiment entendre lorsque nous faisons de la musique. Et puis il y a l'autre pan, qui dérive un peu du premier, et à vrai dire, qui dit, en fait, cette musique, elle est incroyable, parce qu'elle me traverse au plus profond de moi, elle me fait pleurer, je sens à quel point elle élève mon âme, elle m'ouvre le cœur. Et cette même musique, en fait, qui régit le monde, qui, hein, si vous m'avez suivi dans ma petite fantaisie, qui est ce verbe qui crée qui crée l'univers, si ce verbe, il me saisit autant au plus profond de moi, peut-être il y a vraiment une identité. Une identité pas simplement métaphorique, mais que vraiment en étant saisi par les intervalles et par les proportions sonores, je suis saisi par quelque chose qui a trait à l'essence même de la création. Et alors Schopenhauer, bon, qui est un homme très spirituel, mais pas du tout catho, il me semble, il est plutôt bouddhiste, lui, mais il était très très musicien, peut-être un des plus musiciens de tous les philosophes. Alors c'est la citation 7, 6, il dit, la musique diffère des autres arts en ce sens qu'elle ne représente pas simplement les manifestations objectives de la volonté. Alors ça c'est lui, hein, parce que pour lui, en fait, c'est le désir, la volonté qui est vraiment l'essence des choses, de l'homme, mais aussi des choses. Donc la musique, elle ne représente pas simplement ces manifestations-là, comme le fait par exemple une belle architecture, un beau temple, la cathédrale de Gap, un beau tableau, une belle sculpture. C'est des représentations. C'est-à-dire que c'est des artefacts que l'on fait à partir de quelque chose qu'ils ne sont pas. La musique, c'est l'inverse. La musique, elle est elle-même ce qu'elle est. Elle ne représente rien d'autre d'elle-même. Quand je fais un son, ça nous renvoie à une réalité immédiate et précise, mais pas du tout à autre chose. Donc le son est en lui-même immanent, de lui-même immanent. Et donc Schopenhauer dit, c'est par cette qualité-là, d'être en lui-même, d'être immanent à lui-même, ou autrement dit, un peu philosophiquement parlant, que le signifiant et le signifié est identique, il dit que, en fait, le son et la musique est l'expression même de l'essence des choses. Donc, de ce point de vue, continue-t-il, on pourrait entrevoir le monde comme une musique incarnée. Et comme la philosophie n'est autre que l'effort de produire une représentation et une expression complète et adéquate de l'essence des choses, hein, c'est son idée, c'est-à-dire que la philosophie, elle décrit le monde de façon parfaitement adéquate, dans des termes certes très universels. Alors, du moment où l'on serait capable de donner une explication exhaustive et détaillée de ce que la musique exprime en concept philosophique, elle serait, elle, la véritable philosophie. La musique, c'est une citation qu'il a reprise en latin de Leibniz, la musique est donc l'exercice métaphysique caché d'une âme qui s'ignore, philosophée. Lorsque nous écoutons la musique, en fait, nous font la philo et nous font des maths sans le savoir. Et en plus, nous faisons plaisir. Voilà. Donc, la question maintenant qui se pose, je pense que vous avez vraiment envie de savoir, comment ça se fait que cette musique nous touche si profondément? Pourquoi elle fait ça? Alors j'ai trouvé chez l'évêque de Metz, justement, mais bien avant le temps que moi j'étais à Metz, du temps de Charlemagne, il a vécu à Metz et il a beaucoup œuvré à la réforme carolingienne de Duchamp. Donc à l'époque c'était du grégorien. L'évêque de Metz a repris l'image de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Vous êtes le chant, C-H-A-M-P, bien entendu, de Dieu. Dei agricultura estis. Et donc il dit, celui-là laboure la terre de la foi, qui déchire les cœurs avec le labeur de la compunction. Avec le labour, pardon, le labour de la compunction. Aratro compunctionis. Et nul doute que les cœurs, même de chair, soient déchirés par la douceur des mélodies, et qu'elles s'ouvrent comme des sillons dans le témoignage des voix et des larmes. Autrement dit, la musique œuvre en nous comme le soc de la charrue qui fait un sillon profond dans la terre pour qu'ensuite puisse être semée la bonne parole. Et plus le sillon est profond, plus la musique a œuvré cette déchirure du cœur, et ben plus profondément vont être semées les graines, et moins elles vont être emportées par le vent, et mieux elles vont s'enraciner et pousser. C'est un peu ça l'idée. Et donc Isidore de Séville, deux siècles avant, dit « C'est pour les êtres charnels et non spirituels que la coutume du chant a été instituée dans l'Église, de sorte que n'étant pas affecté compunguntur par les mots, il soit ému par la suavité mélodique. » Et puis saint Augustin, vous savez, il a fait un commentaire absolument incroyable sur tous les psaumes, très très beau. Et donc là, dans un commentaire, il dit « Moi je ne chante pas avec la chair, mais avec le cœur. Non carne sed corde. Les habitants de Babylone m'entendent, certes, par ma chair qui résonne. Mais les bâtisseurs de Jérusalem entendent le son du cœur. Nous ne cherchons pas du son pour les oreilles, mais la lumière du cœur. Non queramus sonum auris, sed lumen cordis. » Et Jean-Sébastien Bach, là-dedans, protestant, mais peut-être le plus grand de tous les musiciens que le monde ait connu, la fin et le but final de la musique n'est autre que la gloire de Dieu et la récréation permissible sous la sigla Götzon. C'est pas trop, mais un peu quand même, la création permissible de l'âme. Lorsque cela n'est pas respecté, il n'y a pas de musique véritable, mais seulement braillement et tintamarres infernaux. Je pense qu'il s'est inspiré, alors je continue ma lecture. Il s'est inspiré. Je pense qu'il a senti l'appel du prophète Amos, du 8e siècle avant Jésus-Christ, qui à un moment dit, mais cessez donc, en se faisant prophète donc de la voix de Dieu, bien entendu, Cessez de brailler vos cantiques, je ne veux plus entendre le son de vos harpes, parce que vous n'êtes pas vraiment dans la prière. Voilà. Et puisque vous n'êtes pas dans la prière, je n'ai pas envie d'entendre des sons comme ça qui sont vains. Et alors ce même Augustin, qui a beaucoup réfléchi sur la musique, sur la force de la musique pour préparer le chant à la réception de la parole, a aussi beaucoup réfléchi sur le fait que la musique, en fait, elle peut être complètement détachée de la parole. Et que c'est presque là où elle est le plus justement elle-même. Je ne sais pas si c'est lui qui a inventé le mot de jubilum ou jubilus, mais en tout cas, je pense que c'est bien de le reprendre en latin, parce que c'est vraiment une chose très à part. C'est en fait un mélisme sur, par un alléluia, par exemple. Alléluia. Donc en fait, c'est un grand mélisme sur du A, le A, le Alléluia, mais ça peut être sur toutes sortes de mots, ça peut arriver. Un grand mélisme qu'il appelle lui donc le Jubilus, en disant que là, vraiment, la joie, alors pour l'Alléluia, c'est évident, la joie est tellement immense qu'elle déborde les syllabes. Il n'y a plus de syllabes qui peuvent dire la joie, donc on ne peut plus que faire du A sur de la musique pure. Et là aussi, c'est une querelle qui a duré un peu pendant 2000 ans pour savoir qu'est-ce qui est plus haut. Que la musique est le plus haut des arts, quasiment tout le monde y convient, même les peintres. Moi pas.
Je reste une physicienne et je prends un gros camouflet quand j'entends ça.
D'accord, on en discute tout à l'heure. Mais en tout cas, les musiciens ne sont pas toujours d'accord pour dire est-ce que c'est la musique avec du texte ou la musique sans texte qui prime. Alors Hegel, qui aime beaucoup la parole et qui n'était pas très musicien pour le coup, qui comprenait la musique en fait, il a dit la musique c'est quand même génial parce que vraiment elle est très 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 matérielle. C'est-à-dire qu'il y a le son qui arrive déjà, du moment où la corde elle sonne déjà plus, le son est en moi, donc il se dématérialise complètement, il n'y a plus de matière. En moi, le son dans la mémoire que j'ai du son, s'évanouit aussi, mais qu'est-ce qui reste? Il reste juste un affect de l'esprit, donc il était très content, il était idéaliste, hein, il n'avait pas trop la matière, du coup il était très content. Par contre, si il y a une parole qui est liée au son, c'est encore mieux, parce que là, évidemment, il y a aussi l'intelligence qui apparaît. Et d'autres ont dit, non, au contraire, la parole, ça nous ramène à la mémoire, à nos histoires, de ceci a fait cela, etc. Très intéressant. Donc en fait, ce qui est vraiment génial, c'est la musique pure, la musique instrumentale, les symphonies, ou, à la limite, c'est pour ça que je le dis, le moment où le chant s'affranchit de la limite des syllabes et devient que jubilus. Voilà, donc je pense que à cette condition de se laisser labourer par le soc de la charrue de la musique, pour ainsi dire, on peut se joindre au psalmiste, à David, pour dire avec ma voix, j'écris vers le Seigneur, et il m'a répondu depuis sa montagne sainte. Pour finir, je veux pas quand même, on parlera tout de suite des autres arts, si vous voulez, dans la discussion, mais pour la musique, il y a une chose dont j'ai pas beaucoup parlé, c'est la chanson populaire. Et c'est vrai que c'est ce qui s'entend le plus souvent aujourd'hui. Et moi, je dois dire que la chanson populaire, enfin la musique pop, hein, elle peut être très très spirituelle. Même si les textes ne sont pas forcément spirituels, il y a énormément de choses, et surtout celles qui nous touchent vraiment, qui ont en eux ce soc de l'amour qui nous traverse. Et j'ai entendu l'autre jour, sur France Culture, une citation de Marcel Proust, je ne sais pas d'où elle vient, mais je la donne telle qu'elle, où il dit donc « Détestez la chanson populaire, mais ne la méprisez pas. Car la chanson, ce n'est pas la littérature, certes, mais un raccourci bien commode et parfois sublime, qui exprime en quelques phrases ou parfois autant de vers ce qu'on peut mettre une vie à essayer d'expliquer. » Et là, une heure n'a pas suffi, peut-être une vie ne suffira pas, ni pour expliquer, peut-être encore moins pour comprendre. Enfin, je vous remercie d'avoir écouté mes braillements intellectuels et j'ouvre la discussion. Merci.
Alors, du coup.